VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar au Caire, Ahmed Al-Tayeb, ont eu des consultations aujourd'hui au Vatican. Une rencontre historique et très cordiale, selon le Saint-Siège, après 10 ans de relations tendues entre leurs deux institutions religieuses en raison des propos controversés de Benoît XVI, semblant lier islam et violence. Le message à retenir de cette réunion entre les deux leaders religieux qui se sont donné l'accolade, c'est notre rencontre elle-même, a affirmé le pape François à la presse. C'est la première fois qu'une telle réunion a lieu au Vatican. Le 24 février 2000, Jean-Paul II avait rendu visite au Caire au grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Mohamed Sayed Tantawi. Série d'attentats en Syrie, au moins 148 morts dans les attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont touché les villes de Tartous et de Djablé, jusqu'ici relativement épargnées par la guerre. Maïlis Hegel.
À Tartous, deux kamikazes se sont fait exploser à l'intérieur de la gare routière, suivie de l'explosion d'une voiture piégée à l'extérieur. Un quart d'heure plus tard, des explosions se sont produites simultanément à 60 km dans la ville de Djablé, devant la gare routière, la compagnie d'électricité et deux hôpitaux. Au total, la police fait état de 4 voitures piégées et de 3 attentats suicides. Un bilan d'au moins 148 morts et des dizaines de blessés, la quasi-totalité des civils. Tartous et Djablé accueillent respectivement la base maritime et l'aéroport militaire du contingent russe, soutenant les forces gouvernementales. Il s'agirait d'un coup d'éclat de la part de l'État islamique pour montrer qu'il est toujours opérationnel malgré ses défaites dans l'ouest de l'Irak et dans l'est de la Syrie.
Des dirigeants et ONG du monde entier sont réunis à Istanbul en Turquie pour le premier sommet mondial de l'humanitaire. L'un des objectifs, c'est de trouver comment améliorer la manière de répondre aux crises humanitaires provoquées par les conflits et le réchauffement climatique. Dans son discours d'ouverture de la réunion, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté le monde à prendre ses responsabilités, regrettant un partage inégal du fardeau. Plus de détails avec François Grunwald, directeur exécutif du groupe URD, Urgence, Réhabilitation et Développement, joint par John Lyndon à Istanbul.
Ça a été un processus très riche, très consultatif, avec beaucoup d'entretiens, de consultations dans tous les coins du monde, beaucoup de travail collectif, et que c'est quelque chose d'unique. Ça n'aurait jamais eu lieu comme processus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'évidemment, il a fait apparaître un certain nombre de grands dangers qui pèsent sur le secteur de l'aide humanitaire. D'une part, le risque d'une polarisation et d'une très forte tension entre acteurs du Nord et acteurs du Sud. Ensuite, un risque de tension si les mécaniques de l'aide, notamment au niveau des Nations Unies, n'arrivent pas à réellement réformer leur efficacité et leur capacité de mieux répondre. Et enfin, le troisième risque, qui est que trouver bloqué dans plein de situations de crise qui durent sur des manques de financement et que tout le travail qui se fait autour de ce qu'on appelle le grand bargain pour pouvoir améliorer les financements des crises durables à partir des budgets de développement puisse bien se mettre en place.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce sommet soit différent de ces grandes rencontres internationales qui finissent toujours par des résolutions mais pas d'effets concrets sur le terrain?
Voir qu'en effet, c'est une grosse manifestation qui va avoir quelques recommandations et qui n'auront pas d'effet. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut voir surtout, c'est que ce sommet et surtout les deux ans de préparation ont mis sur la table, ont fait apparaître sur l'écran radar des sujets qui n'avaient jamais été discutés avant. Le travail avec les acteurs du Sud, les sociétés civiles du Sud, les enjeux de la gestion de la préparation aux catastrophes, l'amélioration du lien et du développement. C'est des sujets qui étaient déjà discutés, d'autres qui n'étaient pas discutés et qui sont maintenant clairement sur la table des débats. Là, on ne pourra pas faire de retour en arrière.
François Grunwald, directeur exécutif du groupe URD, Urgence, Réhabilitation et Développement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La crise migratoire maintenant, du 6 au 8 septembre prochain, plus de 200 jeunes venus des 15 pays de la CEDEAO vont débattre au Togo de la question de l'immigration clandestine. Le sommet des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest aura à faire des propositions pour maintenir les jeunes en Afrique. Les détails avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Le sommet qui se déroulera en septembre prochain à Lomé va mener des réflexions sur des initiatives à prendre afin de décourager les jeunes à prendre la mer. Arma Kodjo, coordonnateur général de WILS.
Nous allons réfléchir au cours du sommet de Lomé aux différentes alternatives qui partent nécessairement par l'entrepreneuriat et la création de richesses, histoire de garder la jeunesse en Afrique.
Comme principale cause de l'immigration clandestine, WILS pointe du doigt la pauvreté, mais souligne qu'elle n'est pas une fatalité. Sonia Hundekpon, secrétaire générale de la coordination internationale de WILS.
Le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emploi. Il est important que les jeunes puissent investir dans ce secteur parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien de promettant. On peut se mettre dans le volet de l'ananas, de l'acajou et produire chez nous maintenant, pouvoir exporter. C'est sûr qu'il y aura d'avenir à Dieu.
Toutefois, ces jeunes indiquent que les gouvernements africains doivent consentir plus d'efforts pour améliorer le climat des affaires avec une politique fiscale mieux adaptée aux jeunes entrepreneurs. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Afrique du Sud, le parquet sud-africain s'est déclaré aujourd'hui défavorable au rétablissement de 783 chefs d'inculpation de corruption contre le président Jacob Zuma. Une décision destinée à gagner du temps, selon l'opposition, pour protéger un président embourbé dans d'autres scandales. Nani Talani.
Les 783 charges relatives à la corruption, la fraude fiscale et aux rackets avaient été abandonnées en 2009, quelques semaines seulement avant l'élection de Jacob Zuma à la présidence. Mais fin avril, la Haute Cour de Pretoria a estimé à l'unanimité que le parquet avait agi de façon irrationnelle en les abandonnant pour vice de forme. Cette décision doit être revue et le président devrait être poursuivi pour ses chefs d'inculpation, a ajouté le tribunal, renvoyant la balle au parquet. Aujourd'hui, le procureur général Sean Abrams a choisi de faire appel de ce jugement, se déclarant de fait défavorable au rétablissement des charges. Il estime que la décision de la Haute Cour est susceptible de faire jurisprudence et remet en cause les pouvoirs discrétionnaires du procureur. Pour le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui avait saisi la Haute Cour, l'appel du parquet est une tactique évidente pour gagner du temps et protéger Jacob Zuma. Ce parti pense toutefois que Jacob Zuma sera jugé un jour et que la justice l'emportera, quels que soient les tours de passe-passe de l'État.
En RDC, le départ de Moïse Katumbi pour l'Afrique du Sud a causé une véritable surprise au Katanga, dont il a été le gouverneur, et aussi dans le reste du pays. M. Katumbi, candidat à la présidence, qui a été inculpé jeudi dernier dans une affaire de mercenaires étrangers, a été autorisé à quitter le pays pour être soigné à l'étranger. Le reportage de notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
Moïse est un homme serré, il va revenir. Son état n'était pas possible qu'on puisse le soigner ici. Comme je ne sais pas si son médecin est en Afrique du Sud, il fallait qu'il puisse aller là-bas. C'est là où il pouvait aller le faire soigner. Je suis contente de cette décision parce qu'il va revenir pour terminer ce dossier qu'il a commencé. Il ne peut pas fuir.
Je suis très content d'abord parce qu'on vient de le libérer pour aller suivre ses soins médicaux. Mais j'aimerais assez qu'il puisse encore rentrer ici pour qu'on termine avec le procès qui est en cours.
Je lui parle à l'exil, c'est quelque chose qu'il avait fait. S'il n'a pas de problème, il va fuir. Tu n'as pas de problème, tu viens. S'il fuit déjà maintenant, il sait ce qu'il avait fait. S'il fuit, il sait ce qu'il avait fait, il l'avait préparé. Parce qu'il y a ceux qui sont au cachot. Soi-disant le... Lewis,
la décision qu'on lisait sur les nets et autres, les propositions qu'on nous avait faites, on avait vite compris qu'il allait vraiment se déplacer pour le soin. Et là, c'est juste quelque chose qui est monté pur et simple.
D'après mon avis, c'est ce que moi je pense. Je pense qu'il avait appelé juste les messieurs pour lui dire si tu dois rester ici, on doit te coffrer. Alors, tu es libre de partir. Parce que si tu devais partir normalement, les gens allaient soupçonner d'une autre façon, c'est la politique. Alors là, il faudrait monter quelque chose pour dire qu'il aille se faire soigner et une façon de les faire évacuer calmement sans que les gens ne se soulèvent.
Avec la politique actuelle, je ne pense pas. D'après moi, je ne pense pas qu'il pourra revenir maintenant.
Comme il y a la démagogie dans la politique, c'est un démagogue. Pour cela, il s'est fait un faux malade et il est parti.
Propos recueillis par notre correspondant Lubumbashi, Narval Mabila. Et pour terminer la crise au Burundi, troisième jour de consultation à Arusha en Tanzanie entre différents protagonistes de la crise burundaise, mais sans la présence de la plateforme Sénaret Giriteka, la coalition de l'opposition en exil. Ces consultations sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa vont prendre fin demain. Elles sont censées servir de feuille de route pour de véritables négociations pour tenter de mettre fin à la crise burundaise. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.